Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional. Le fait du mois, la crise du travail en France, aujourd'hui, demain, avec François Poursier, historien et conférencier du fait du mois, du cycle de conférences à l'initiative des Amis de l'éducation populaire à Villefranche. Plan filière viticole, prochainement à l'ordre du jour, en région Auvergne-Rhône-Alpes, les propos recueillis de Bernard Perru lors de la cérémonie de remise du trophée Meilleur Gamay du Monde au domaine Chanrion à Cercier. Et enfin, le renouvellement urbain de Belleroche à Villefranche-sur-Saône. Nous sommes en compagnie du bailleur partenaire de l'opération, l'OPAC du Rhône, Xavier Englebert, directeur général de l'OPAC, et joint par téléphone. Calade, le journal. Pour la Saint-Valentin, câlin, chagrin, coquin, ou plutôt taquin. Taquinou, la police du Bas-Rhin, qui sort le grand jeu sur Twitter. Article tiré des pages actu.strasbourg par Yvan Capéchi. En ce 14 février 2023, jour de la Saint-Valentin, la police du Bas-Rhin célèbre l'amour à sa façon, tout en humour et autodérision. La community manager, derrière le compte Twitter de la police du Bas-Rhin, a encore frappé. En ce 14 février 2023, jour de Saint-Valentin, le compte, suivi par plus de 41 000 personnes, a partagé une vidéo humoristique jouant sur le double sens du mot « hôtel » dans l'expression « hôtel de police ». L'hôtel de police vous accueille pour vivre une expérience hors du commun, nous dit-on. En effet, l'institution devient ici un hôtel 4 étoiles, mêlant charme et tradition. Sur fond de violon romantique, une voix off annonce un cadre verdoyant au cœur de Strasbourg, une ambiance feutrée et authentique, dans lequel tout un chacun est invité à passer une nuit insolite. Et vivre une expérience hors du commun. On ne vous en dit pas plus et on vous laisse découvrir le reste par vous-même. Petit coquinou, va, et double peine, nous ne résistons pas à vous faire profiter du tweet Saint-Valentin de l'an passé. En 2022, déjà pour la Saint-Valentin, l'hôtel de police proposait une formule all-inclusive, toujours sur le ton de l'humour. Cette année, pour la Saint-Valentin, l'hôtel de police de hashtag Strasbourg vous propose un forfait 24 heures. Formule all-inclusive, nuitée avec dîner au violon et voiturier. Réservation conseillée. Et pour la morale, peine planchée pour ces cupidons récidivistes. À l'année prochaine. Le fait du mois, la crise du travail en France, aujourd'hui, demain. Quelle est la place du travail aujourd'hui? Quels sont les emplois de demain? Comment est perçu le travail de nos jours? Et comment sera le monde du travail de demain? Autant de questions qui font référence à la crise des retraites qui se joue actuellement. Des éléments de réponse avec François Boursier, historien, conférencier du Fait du Mois, cycle de conférences à l'initiative des Amis de l'éducation populaire à Villefranche. Première interrogation avec celui-ci sur la complexité du marché du travail aujourd'hui en France.
Alors, c'est un marché du travail complexe. C'est aussi un pays où il n'y a jamais eu autant de gens au travail. La population active est de plus en plus importante, de plus en plus nombreuse. Mais c'est vrai qu'on est confronté à un marché du travail plutôt complexe. Le monde du travail est complexe lui-même. Et c'est vrai qu'au moment où on débat beaucoup de cette réforme de la retraite, intéressant de noter que finalement, quand on écoute les gens dans les manifestations, c'est pas tellement de la retraite dont ils parlent, mais c'est du travail dont ils parlent, c'est-à-dire que de la qualité ou de la non-qualité de vie au travail.
Alors effectivement, l'emploi du travail jusqu'à présent restait le moteur central de la construction des Français, hein, finalement, qui tenterait aujourd'hui peut-être à être un petit peu moins vrai sur les jeunes.
Ce qui s'est passé, c'est qu'on sort depuis 40 ans, enfin, nous sommes sortis de ce qu'on appelait la société industrielle ou la classe ouvrière, c'est-à-dire où la force de travail incarnée par les ouvriers représentait 35 à 38% de la population active. À côté de ça, vous aviez 20% de la population qui travaillait dans l'agriculture. Donc on avait une société industrielle, c'est la chanson de Pierre Bachelet, Les Corons. Hein. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays, hein. C'est ce qu'ils chantent. On était vraiment dans une sorte de mythologie du travail, de la fierté exprimée dans le travail. On parlait même à certaines époques, chez les sociologues, d'aristocratie ouvrière, quand on était dans les gens de métier qui avaient fait carrière toute leur vie, qui, j'ai presque envie de dire, bien que aliénés au travail, parce que le travail était dur, il y avait une grande fierté qui s'exprimait. Et c'est vrai que ce monde-là a disparu et a sans doute transformé l'attitude des gens vis-à-vis du travail. Mais là encore, c'est ambigu, c'est complexe. Toutes les études que nous avons montrent sans doute que les jeunes générations portent un regard sur le travail qui est sans doute très différent de celui des générations précédentes.
Le chômage de masse également a certainement érodé hein, ce socle social et fait perdre confiance notamment dans les politiques, dans ceux qui la représentent, hein, dans ceux voilà, des gouvernances en quelque sorte. Hein.
Oui, ça a quasiment 35 ans de chômage de masse, c'est-à-dire entre 10 et 13% de gens qui étaient au chômage dans notre pays. Ça marque durablement un pays, ça marque durablement une société qui explique le monde où l'on vient. En même temps, en sachant que dans ce pays, comme l'avait très bien dit une étude de la Fondation Saint-Simon dans les années fin des années 1990, en France, le chômage était surtout une solution plutôt qu'un problème. Il faut se souvenir qu'on a, pendant des années, dans un accord tacite entre le patronat et les organisations syndicales, élaboré le système des pré-retraites qui a permis de foutre dehors allègrement des gens qui avaient une carrière, qui avaient un métier, qui avaient des savoir-faire, à qui on a dit « rentrez chez vous, les assédiques vous payeront jusqu'à ce que vous arriviez à la retraite ». C'est ce qui explique entre autres pourquoi les seniors dans ce pays sont très peu nombreux à travailler si on compare à nos voisins. Mais c'est vrai que le chômage a lui aussi été un facteur important de transformation de notre rapport au travail.
Alors, un fort taux de chômage depuis des années, pourtant de nombreuses créations d'emplois, ceci dit.
C'est le paradoxe. C'est le paradoxe d'une société en bouleversement, en mutation. Dans le cadre de ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle, il y a des secteurs innovants qui se développent. Donc, il y a des créations d'entreprises, il y a donc des créations d'emplois. Puis en même temps, il y a un chômage. Et il y a, on le sait, il y a des secteurs où on ne trouve pas à embaucher, pendant qu'il y a des gens qui ne trouvent pas à travailler.
L'après-Covid a augmenté en quelque sorte les démissions, les arrêts de travail, les gens inactifs ou axés sur d'autres reconversions, hein, une modification effectivement.
Alors ce que l'épidémie de Covid-19 a eu pour effet dans notre rapport au travail, c'est qu'on a quand même, alors on a découvert deux choses. D'abord, on a découvert que on pouvait vivre sans aller au travail parce qu'on était quand même payé. C'était le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron. Mais on a découvert aussi qu'on pouvait travailler autrement, travailler différemment. Et là aussi, ça a produit une sorte de mise à distance. Mise à distance, interrogation. Il y a des dizaines de milliers, on peut même parler de centaines de milliers de gens qui, après le Covid, ne sont pas retournés au travail pour dans la restauration, dans les services. Pourquoi est-ce qu'une infirmière décide de quitter son métier pour devenir caissière dans une grande surface? Il faudrait s'interroger. Il faudrait s'interroger sur le fait que dans ce pays aujourd'hui, et ça on ne le sait pas suffisamment, aux alentours de 65% des gens qui travaillent sont aujourd'hui sur des horaires atypiques. C'est-à-dire que les gens qui partent le matin à 8 heures au travail et qui reviennent le soir à 17 heures après une pause à midi, ça ne représente plus que 35% de la population. Les autres, ils ont des emplois, j'allais dire, qui sont complètement déséquilibrés. 3 heures à un moment donné, on s'arrête 2 heures, on reprend 2 heures, on s'arrête 4 heures, on travaille la nuit. C'est ce qui explique la très mauvaise qualité de vie au travail dans ce pays et explique sans doute l'attitude des gens vis-à-vis du travail.
C'était François Boursier, historien, conférencier du Feu du Mois, cycle de conférences à Villefranche-sur-Saône, un thème d'actualité débattu chaque mois. Plan filière viticole pour la région Auvergne-Rhône-Alpes prochain. Les propos recueillis de Bernard Perru lors de la cérémonie de remise du trophée meilleur gamay du monde 2023 au domaine Champrion à Cercier et l'évocation du prochain rendez-vous du plan filière viticole en région Auvergne-Rhône-Alpes qui devrait être mis à l'ordre du jour.
Merci à vous. Aujourd'hui, bien sûr, est mis à l'honneur l'un des meilleurs vins. Quand je dis l'un des meilleurs vins, c'est que cette distinction du gamay au niveau mondial est une distinction qui concerne aussi tous les viticulteurs et viticultrices du Beaujolais, non seulement Romain, bien sûr, qui nous accueille, mais aussi tous les viticulteurs. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'ailleurs, accompagne la viticulture depuis plusieurs années à travers le plan Beaujolais. La région Auvergne-Rhône-Alpes sera présente aussi sur tous les salons qui peuvent exister à Paris, notamment le salon de l'agriculture. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes va voter dans quelques jours un nouveau plan Beaujolais dans le cadre du plan filière viticole. Et bien évidemment, nous allons continuer à accompagner les viticulteurs et aussi les accompagner dans la promotion de ce vignoble, dont on voit aujourd'hui qu'il est sur la bonne voie, c'est-à-dire la voie de l'excellence. Je crois que le Beaujolais, dans sa diversité, puisqu'il y a à la fois les crus, le Beaujolais village, les Beaujolais blancs, les Beaujolais rosés, s'adapte parfaitement aux attentes des consommateurs. Les consommateurs, bien sûr, français, européens, aussi dans le monde entier. Et je vois que le Beaujolais sait s'adapter aux cultures, à la culture bien sûr japonaise, où il faut renforcer notre présence, aussi bien sûr auprès des États-Unis, auprès d'autres pays émergents. Donc je crois que c'est toute la force du Beaujolais, c'est l'inventivité de nos viticulteurs.
C'était Bernard Perru, conseiller régional, Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour conclure cette édition, renouvellement urbain de Belleroche à Villefranche-sur-Saône, une transformation profonde du quartier de Belleroche en cours et jusqu'en 2030, partenaire de l'opération, le bailleur Opac du Rhône, le point des travaux avec son directeur général, Xavier Englebert, il est joint par téléphone.
L'école quand même va être construite à la place des immeubles des Alouettes. Ils sont juste en face de la maison de santé de Belleroche. Hein. C'est l'étape, ça sera l'étape suivante dans la réalisation de la maison de santé. Elle est pluridisciplinaire, d'accord. Donc elle est bien là pour regrouper des médecins généralistes, des infirmières, mais également une orthophoniste, d'accord, ainsi que des services publics, la médecine préventive, la protection maternelle et infantile et la médecine scolaire. Bon, ce que je sais, c'est que le centre commercial sera démoli et qu'à la place, on y mettra des locaux commerciaux, d'accord. Bon, au total, quand même, hein, sur le projet, hein, c'est 500 logements qui sont démolis. Et on construira à la place 200 logements, hein, mais dans des immeubles plus petits, sur des formes beaucoup plus variées. Simultanément donc à cette démolition et reconstitution partielle, hein, nous allons également rénover et résidentialiser plus de 600 logements. Je répète, hein, dans votre idée, hein, pour les espaces verts, l'idée c'est bel et bien, hein, de travailler les espaces verts aussi pour la délimitation et la circulation. Voilà, c'est
les mobilités, vous voulez dire,
hein, voilà. Oui, les mobilités, mais c'est la circulation dans le quartier de Belleroche, voilà, elle va permettre de fluidifier un petit peu cette circulation et surtout de garder les espaces verts tout en permettant la circulation douce, bien sûr.
C'est Xavier Englebert, directeur général de l'Opac du Rhône, partenaire du renouvellement urbain de Belleroche à Villefranche-sur-Saône. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.